du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 711 du coq à l'âne, en direct de Briançon chez Jean-Michel Tirole, avec évidemment à mes côtés la traditionnelle équipe des coq à l'âne briançonnais, Philippe Stockley.
Bonjour.
Bonjour mon Philippe. Rémi Chouissa.
Bonjour.
Comment il va ?
Bien, merci.
Voilà.
Bonne année à tous.
Et donc, Jean-Paul.
Oui, tant que tu y es.
Jean-Paul Grolier, qu'on va saluer.
Bonjour tout le monde.
Qui est à l'heure ?
Changé. Oui. Exceptionnellement, ouais.
Oh, c'est la petite vanne. C'est la petite vanne. Et puis, notre invité, c'est Nicolas Busca qui est avec nous. Bonjour, Nico.
Bonjour.
Le boss, bien sûr, de l'entreprise Resalp. Et comme le veut la tradition, on débute cette émission avec Philippe. Alors, Philippe, on parle ce matin ?
Nicolas, on s'était dit rendez-vous dans un an. Non, je m'égare d'entrée. Excusez-moi. Il y a un an, nous étions au casino de jeu, enfermés.
Ah oui, je me souviens.
Masqués, isolés, délaissés. Pour faire ce coq-à-l'âne spécial, Nicolas Busca, version 2021. Nicolas qui fait partie de nos invités réguliers et on en est très content.
Et presque favori.
Oui, invité préféré même, je dirais.
D'accord,
et puis
bon,
même
voilà.
Plus loin, on est très fiers de le connaître. Enfin, je reviendrai là-dessus.
D'accord. Alors aujourd'hui, nous revoilà en 2022, en terrain plus classique, à la taverne chez Jean-Michel. Une table de bon caractère.
On peut le dire.
Avec plein de monde souriant autour de nous, enfin tout à l'heure, qui ont présenté leur passe sanitaire et porté un masque jusqu'à leur table. On pourrait dire que les choses ont changé, évolué, peut-être même revenu à la normale. Pour ce qui est du boulot de Nicolas, transporteur de touristes, pardon pour ma vulgarité, je vais préférer à ce verbiage préhistorique le slogan de la maison Resalp, expert en mobilité d'altitude.
Expert en mobilité
d'altitude. Pour ce qui est donc du boulot de Nicolas, à part que he's not caring English traveler anymore, tout va bien, tout est revenu presque normal, on en reparlera. Il y a un an, je m'agaçais contre les grandes bouches, les menteurs et les tricheurs qui tournoyaient autour de cette épidémie. Aujourd'hui, le temps est à la réflexion, à l'analyse, au discours posé. Et je vais plutôt vous parler d'ultra-crépidarianisme. D'ultra-crépidarianisme. Un joli mot savant s'il en est, dont j'adore cette définition que m'a imposé l'ordinateur. L'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de donner son avis avec assurance sur un sujet pour lequel on n'a pas de compétences légitimes. Peu utilisé dans le langage courant, l'ultra-crépidarianisme est cependant très souvent pratiqué.
Oui,
tu m'étonnes.
Oui. Et à ce sujet...
Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein.
C'est important.
Carabistouilles. L'ultra-crépidarianisme. Donc, moi, si je peux me permettre... Si je peux. Tout ce que je souhaite afin de continuer de dérouler ma vie sereine. Vie sereine, ça veut dire vie de retraité qui prend le temps. Pléonasme, un retraité
qui prend le temps.
Qui prend le temps, entre autres, de choisir ses sources d'informations. Sincèrement, je m'y attelle vraiment beaucoup. Tout ce que je souhaite, c'est de ne jamais rencontrer d'ultra crépidarien. Au même titre que je ne souhaite jamais rencontrer un non-vacciné. Donc j'espère qu'autour de cette table, tout va bien.
Non, ça va.
À quoi bon croiser et même débattre avec ces gens qui, depuis 2 ans, nous encombrent la vie ? Il y en a qui ont utilisé des mots plus parlants, comme le premier ministre québécois qui qualifie les non-vaccinés de fardeau pour la société. Et bien sûr, comme notre PDR. Vous connaissez ça, le PDR ?
Président des riches. c'est de lui que tu parles.
Notre PDR qui, je cite, mais avec solidarité, vouloir emmerder les non-vaccinés. Des propos lâchés lors d'une interview pour la presse écrite, j'ai bien dit écrite. Et je me dis, en lisant ça, que les conseillers en com du PDR ont tapé fort, et que surtout le PDR a accepté de valider ce discours. Je trouve ça quand même osé. Sur le sujet, je citerai juste un chroniqueur, trié sur le volet, Michel Montpontet de France Info, qui dit de cette sortie qu'elle est moralement discutable, mais politiquement impitoyable. En gros, c'est la politique à 3 mois des élections vue par notre PDR. Le sujet viral étant clos, je voulais aussi vous parler de l'interview de Stromae.
Ah,
je sais pas si...
Si, on a vu.
Magnifique, chargé d'émotions. Je trouve ce gars un talent phénoménal. J'ai toujours trouvé si loin des conventions. Hein, en fait, j'explique ce qui s'est passé. Il lui fut une interview toute classique à TF1 dimanche soir. Pas très,
comme il y a beaucoup d'interviews classiques le dimanche soir sur TF1 ou sur France 2 avec un artiste qui vient, que ce soit de la culture, du cinéma, de la musique.
Et la dernière question, donc la journaliste lui dit, vous avez eu des problèmes de santé, machin, tout ça. Et il y a un gros plan sur Stromae qui répond pas pendant 2 secondes, et au bout de 2 secondes, il se met à chanter. Sa dernière, une chanson sur la dépression.
À l'enfer.
Et là, excusez-moi, pour moi c'est magique, hein, c'est vraiment quelque chose de complètement...
C'était très original.
Très hors norme, enfin... Voilà, et surprenant. Bon, enfin. Et malgré ça, dans la presse, à gauche, hein, rien ne surprend. Tout blase. L'ancien Nouvel Obs qui râle encore et encore, égal à lui-même, aigri. En plus, je trouve qu'il aigrit mal. Il y en a marre des râleurs. Franchement, râler contre ce talent de ceux qui trouvent toujours à dénigrer autant qu'ils le peuvent, même quand ils le peuvent, plus qu'ils le peuvent. Et ça semble être devenu une spécialité de la gauchitude. Ah, mais qui lit encore ce genre de presse blasée et terne? La une de
Libération. Libération,
on voit la tronche à Mélenchon qui est en train de nous dire « Mais votez pour moi, vous allez voir ce qui va se passer. » La une de Libération. Tous ces gens qui votent encore pour ces fossiles. on entend déjà que le PS va disparaître après les élections d'avril. Bon débarras. Repartez avec votre Obs et votre Libé sous le bras et allez bougonner dans votre coin, franchement. Attention, ne voyez pas là dans mes propos une diatribe contre la gauche, en qui j'ai cru longtemps.
Ah bah...
Et pour qui j'ai toujours voté, n'est-ce pas Thierry ?
Et pas qu'un peu. Ouais.
Ne voyez plutôt dans ces propos que des regrets, des gros regrets, tellement de déceptions devant ce sabordage et tout cet orgueil. Bon, parlons pour presque en finir des expressions à la mode chez nos jeunes. Après les agaçants du coup, en fait, une petite nièce m'a lâché il y a peu, ceci, ça plaira à Nicolas, à plus dans le bus.
À plus dans le bus, Nico. C'est une expression que tu emploies régulièrement.
Ah oui, bientôt dans l'hélico.
Oui.
Approche-toi bien du micro.
Il y a aussi l'incontournable à plus tard dans le car et à demain dans le train.
Oui, c'est donc pas ça, faux.
Je vous informe, messieurs, c'est à la mode. Hein, à plus dans le bus, Jean-Paul.
Oui, non, je pratique aussi.
Ah, j'ai essayé pour faire encore plus jeune de transporter le système à la montagne. Mais je ne pense pas avoir beaucoup de succès. Voyez plutôt.
Alors.
Jusqu'en Amérique, dans le téléphérique. Vous forcez pas à rire, Thierry. Vous faites plaisir. Mais...
Ouais, je suis bon public.
À 16 sur le télésiège.
Ah oui, c'est pas mal.
Avec Apolline dans la télécabine.
Oui.
En lisant Dostoïevski sur le téléski.
Hey.
Oui, laborieux, je le reconnais. Alors, je terminais avec le plus solide et incontournable, Trotsky tue le ski.
Trotsky tue le ski. C'est pas mal, celle-là, elle est bien.
Elle est bien, mais elle n'est pas de moi. Et puis pour terminer, mais vraiment terminer, je vous jure, je voulais vous parler d'une étrange carte de vœux sous forme de rébus qui a circulé sur le net en début d'année, dont je n'ai pas réussi à identifier l'auteur. On y voit un arbre qui porte des bananes, puis des pommes de terre qui rissolent dans une casserole, dans une poêle. Après des heures et des heures de recherche, il fallait donc lire « bananier et pommes sautées ».
Ouais. Oui, je sais.
Alors, intéressant, mais comme dirait ma coiffeuse, un peu capillotracté.
Hein. Oui, exactement, c'était très tiré par les cheveux.
Et surtout, il faudrait conseiller à cet auteur, dès qu'il sera identifié, de consulter, avant qu'il ne soit trop tard. Mais je vois Thierry qui me regarde.
Non, mais je vais consulter. C'est vrai que c'était très moyen. C'était très moyen. Mais chaque année, on met sur les réseaux sociaux, allez, bonne année, etc. Et moi, je n'avais pas envie de dire bonne année, donc effectivement, j'ai mis ces deux photos de bananier et de pommes sautées.
Bananier, pommes sautées.
Voilà. Bon, je sais, c'est pas terrible. Bon. Nicolas, un mot à dire sur ce qui vient de balancer ? Rien de particulier ?
Moi, j'irais bien au ski avec Stocky.
En plus, c'est une marque de ski. Bah, je voulais tout de suite enchaîner avec Nico rapport à. Depuis un an, tout ce qui se passe dans.
Alors, vas-y, commence.
Hein, on en avait beaucoup parlé à l'époque du personnel vacciné, des prêts garantis par l'État. De tout ça, et maintenant il vient se greffer là-dessus l'absence des Anglais. Donc je voulais que Nico nous raconte un peu ce qui s'est passé pendant un an dans sa grande entreprise. Ça doit pas de facile.
Non, effectivement. Alors je dirais que le moment le plus difficile, il est en ce moment. Hein, parce que de toutes les époques Covid, en tout cas hiver, jusqu'à maintenant on n'avait pas de clients. Aujourd'hui on a des clients et puis on commence à avoir de moins en moins de personnel pour réaliser le travail. Parce qu'on est en plein dans ce pic épidémique de la cinquième vague. Nous, chez Resalp, en ce moment, on est entre 7 et 9% d'absentéisme lié au Covid, hein, soit des gens directement covidés ou des enfants covidés. Enfin, ouais.
Sur un personnel de combien de personnes ?
En ce moment, on est 120.
Ah oui, d'accord. J'aime bien rappeler. Ah oui,
120 équivalent temps plein ?
On est 120 personnes au travail en ce moment.
Ça fait 10 quoi. 10 qui te manquent.
Ouais, ça fait entre 9 et 10. Donc c'est difficile de. Il y a des plans de transport adaptés qui sont mis en place avec les collectivités, des choses comme ça. Mais bon, sinon, depuis un an, bon, on a quand même eu des périodes plutôt sympathiques avec une reprise d'activité l'été dernier. On a entrevu des rayons de soleil économiques. Bon, les Anglais reviennent, hein, ça y est, hein, ils sont libérés.
Oui, c'est le jour.
Voilà, sinon, écoutez, quoi vous dire, à part que on tient bon, on garde le sourire parce que ça donne la joie et qu'on continue d'avancer avec plein de projets. On a gagné le marché des Deux Alpes cette année. On est en train de monter un réseau 100% électrifié avec 7 autobus électriques aux Deux Alpes. On vient d'investir dans 3 autobus hydrogène pour l'Alpe d'Huez qui seront mis en service en 2024. Voilà, il y a la transition énergétique qui se met en place. La communauté de communes du Briançonnais a récupéré la compétence mobilité pour tout le territoire. Donc il y a des choses qui vont bouger dans le Briançonnais aussi à ce niveau-là. Voilà.
Et tu nous parlais de moins 15% de fréquentation à Noël.
Bah, Noël, oui, moi j'entendais plein de gens me dire que c'était des super vacances, qu'il y a eu plein de monde et que c'est pas vrai pour tout le monde, hein. Je crois que quand on fait le tour des
c'est pas vrai pour personne, oui, je crois.
Nous on est à moins 12% sur l'activité occasionnelle pendant les vacances de Noël. On a eu 2 jours extrêmement bien fréquentés, le jeudi et le vendredi du Nouvel An. Mais j'ai envie de vous dire, pour tout le reste, ça reste quand même pas...
Oui, on avait promis 2 Nouvel An. Hein. Ta commerçante m'avait dit ça. Disons, nous, on nous avait promis 2 semaines de Nouvel An.
Ouais.
En fait, la semaine de Noël... Non,
on en a fait les 3/4, voilà.
Ouais. Donc, ce qui est quand même, sur le fond... Là, il n'y a pas d'effet Covid, il n'y a pas de... Moi, sincèrement, ce matin, j'ai longé la vallée, c'est la vallée de Serre-Chevalier, mais c'est vide. Là, on est toujours dans cette période. Enfin, toi, tu la connais puisque tu transportes moins de monde, j'imagine. Mais on reste toujours sur ce vieux principe accroché à Serre-Chevalier où les 3 semaines de janvier restent complètement creuses, quoi. Et ça, c'est qui... On a eu beaucoup de discours, beaucoup de projets, beaucoup d'attention, mais n'empêche que le résultat est toujours là. Alors, toi qui travailles dans plusieurs stations, comment tu t'appréhendes ça? Tu vois surtout, j'imagine, des choses différentes ailleurs.
C'est un petit peu différent parce que la typologie de Serre-Chevalier est très orientée quand même famille, résidence secondaire. Mais sur les stations où on attendait des étrangers, ils ne sont pas venus non plus. Il y a peut-être certaines stations axées sur la jeunesse qui s'en tirent un petit peu mieux.
Les Deux
Alpes, un peu plus. Mais je dirais quand même que c'est pas folichon. Enfin,
je pense que Val d'Isère, qui a 50% de clientèle anglaise, doit souffrir.
Oui, il passe un mauvais moment, Courchevel aussi.
Et pour avoir discuté avec certains hôteliers, des grands hôtels ici, il y a eu beaucoup, beaucoup d'annulations de groupes quand même. Hein. Des annulations qui ont été prises il y a 15 jours, 3 semaines pour janvier. Aujourd'hui, ils ne seraient peut-être pas annulés. Tu vois, mais au moment de Noël, il y avait quand même un climat de peur, même si... Il y avait moins de restrictions, évidemment, qu'il y a un an, mais il y avait quand même un climat de crainte. Et il y a eu beaucoup de Nouvel An annulés de partout, on le sait, hein, que ce soit des fêtes familiales ou des fêtes en extérieur, dans les restos. Je crois que, voilà, on peut espérer mieux pour février, vu le discours aujourd'hui qui est tenu. Comme tu disais, Nico, les Anglais vont revenir. Hein,
puisqu'ils oui, ont depuis 2 jours, ça y est, ils ont le droit de
voyager avec 2 vaccins, avec 3 vaccins. Donc, je pense que les skieurs, ils vont se dépêcher de faire une 3e dose s'ils n'ont pas eu pour pouvoir venir en mars dans les Alpes. Hein.
Et je voulais juste, pour terminer sur l'actualité très locale, parler des affiches du trophée Andros.
Ah bon?
Parce que vous savez que normalement, le week-end prochain, on aurait dû avoir lieu
le trophée.
Le trophée Andros à Serre-Chevalier depuis, hein, qui existe
ça
depuis
fait des
très
années.
Longtemps. Et ce trophée était annulé il y a quasiment 2 mois. Et qu'est-ce qu'on voit arriver depuis une semaine? On a vu arriver des affiches partout. Trophée Andros à Serre-Chevalier. C'est fabuleux. C'est-à-dire qu'un événement annulé depuis 2 mois, on voit des affiches fleurir partout. On nous a pas tout dit. Et en fait, la presse a appelé le publicitaire,
ouais,
qui a répondu « Ah ben nous, on n'était pas au courant que c'était annulé, donc on a quand même fait la campagne d'affichage. »
Pas mal.
Il y a quand même qu'ici qu'on voit des trucs comme ça. Quand même, hein, parce que l'histoire du publicitaire qui sait pas, ça, faut pas me la faire. Hein.
Ou alors il s'est dit, moi, on m'a pas prévenu vraiment, même si je suis au courant, oui, mais je vais faire mon boulot, parce que ça sera toujours ça de payer.
De toute façon, on ne dit jamais rien, moi.
Hein, ouais. Éventuellement, oui. Non, mais c'est quand même très étonnant.
C'est très étonnant, oui.
Oui, parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on savait, oui, que, ouais, ça n'allait pas avoir lieu.
Et de vous, alors là, je me suis vraiment posé la question. Et bon, bah, toutes ces petites histoires locales qui sont assez courantes, comme ces trucs, des histoires un peu tordues.
De l'information locale, on fait un saut à l'info nationale, qui est d'ailleurs très locale, hein, puisqu'on va parler de l'éducation nationale. Ah, l'éducation nationale. Pourquoi ? Et c'est la question que je me posais cette semaine. J'ai dit, pourquoi c'est toujours le bordel dans l'éducation nationale ? Pourquoi ? C'est un petit peu comme la SNCF, hein, l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas 6 mois sans qu'on ait une grève. Alors là, il se trouve que c'est contre les protocoles, hein, visiblement. Ce qui est vrai, ça change à tout bout de champ, ça fait quand même 3 ou 4 fois que ça change depuis la rentrée, donc on peut le comprendre. Alors le gouvernement se défend en disant que c'est pour essayer de simplifier le protocole, hein, la doctrine, et surtout pour ne pas fermer les classes autant que faire se peut, comme on dit. Que demandent les syndicats ? Bah, la même chose que le premier protocole, c'est-à-dire un cas, une classe fermée. La France, il faut le savoir, est le pays d'Europe qui a le moins fermé ses écoles. Alors, ça entraîne évidemment des contraintes très saoulantes, on le comprend, mais la question est-ce que le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui ? Parce que si on avait écouté les syndicats de l'éducation nationale, hein, SNU, IPP, FSU, celui-là il est gravé dans ma tête, on aurait certainement quasiment les écoles fermées depuis 2 ans. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui d'essayer à tout prix de garder nos écoles ouvertes ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Nicolas, toi qui accompagne tes enfants tous les matins à l'école, comment ça se passe ?
Ce matin, j'ai mis une tige au fond du nez de mon fils pour qu'il puisse rentrer dans l'école, hein, ouais, comme depuis une semaine. Je pense quand même que c'est pas si mal géré. On peut critiquer beaucoup, mais c'est le pays européen où on a le moins fermé les écoles. Et moi, sincèrement, si demain je dois garder mes enfants, je peux plus travailler. Et dans mon entreprise, j'en ai plein aussi dans ce cas-là. Je comprends, ma mère était instite, hein, donc je connais un petit peu le métier.
Les deux côtés.
Voilà. Et je peux comprendre que ça soit pas simple d'appliquer ce protocole sanitaire. Maintenant, moi, je vois mes enfants, ils sont dans une école qui est très bien gérée, avec des instituteurs qui appliquent comme il le faut le protocole. Il y a toujours un petit peu des moments de flottement quand il se passe quelque chose, qu'il y a une école qui ferme. Mais au final, on avance, les enfants ils vont à l'école, ils n'ont pas trop perdu dans l'éducation. Voilà, moi, je ne critiquerai pas plus que ça. Maintenant, pourquoi l'éducation nationale, c'est toujours la pagaille, je ne sais pas, je ne me prononcerai pas là-dessus. Peut-être qu'en ce moment, le chef, le patron, il dirige pas. Moi, j'ai remarqué que dans mon entreprise, à chaque fois que j'ai pas été très bon, ça s'est ressenti. Hein. Y a un moment donné où il faut aussi que les dirigeants se remettent en question. Voilà, et ce n'est pas toujours que la faute
des profs
ou des instituts.
Ou des instituts, ouais. Alors, Blanquer, ça fait quand même, mine de rien, parce que s'il va jusqu'au bout, là, ça fera pratiquement 5 ans hein, qu'il est en place. Hein. Je crois que...
c'est exceptionnel.
Je crois que
la moyenne, c'est 2 ans.
Hein. Hein, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Lui, il est là depuis 5 ans quand même. Donc, est-ce qu'il n'est pas arrivé au bout du bout du bout ? Alors, après, c'est vrai que... Enfin, moi, je ne sais pas vous. Enfin, à peu près même plus que moi, puisque vous êtes beaucoup plus vieux. Ça fait 40 ans que je m'intéresse... Ah, pas Nico. Hein. Ça fait 40 ans que je m'intéresse à la politique. Et depuis 40 ans... On va dire depuis le début des années 80, je n'ai jamais entendu quelqu'un de l'éducation nationale dire « on a un bon ministre de l'éducation nationale ». Jamais, jamais.
Ah, si, il y en a eu un, quand même.
Ah, excuse-moi, qui a été alors remarqué. Je l'ai raté.
Je crois bien.
C'est lequel ?
Il s'appelait, alors qu'il était ministre de la Culture, il a fait de bonnes choses, c'est Jacques Lang. Et on a dit que ça a été un excellent ministre de l'éducation nationale parce qu'il n'avait rien fait.
C'est ça.
Ah bah, c'était ça.
Mais ça, c'est le rôle du ministre. Hein. Ça... Vous savez que normalement, le ministre est là pour marquer d'une pierre blanche son passage. Donc, oui, il y a toujours une loi qui porte son nom. Hein, vous savez, les fameuses lois.
Et lorsqu'on avait entendu ces propos, beaucoup de gens disaient, mais au fond, est-ce qu'il y a un ministère qui n'a aucune utilité? C'est le ministre de l'Éducation nationale, puisque systématiquement, les gens sont contre, les syndicats dont tu parlais, chaque fois, bon.
Mais voilà. Est-ce qu'il y aurait une solution pour essayer de trouver, disons, une entente entre donc, les professeurs, hein, globalement, et le ministre?
Ah ben,
parce que là, moi, je me pose des questions, je me dis, mais c'est pas possible.
Ils ont bien avancé, là.
Oui.
Ça fait 6 mois ouais. qu'ils pagaillent, et puis hier soir, en 3 heures, il paraît qu'ils ont trouvé plein de solutions. Où ils ont fait des
masques, des masques FFP2, de l'embauche de personnel... Ouais. Bon, en attendant de voir si effectivement ça va arriver. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Hein. Ce ministère, il est quand même très, très problématique. Hein.
Et encore d'autant plus maintenant. Moi, je viens de vivre une situation familiale où la petite est 4 ans et demi. Alors, moyenne section, cas contact, terminé. En moyenne section, c'est-à-dire, plus ça va, plus ça descend.
Mmh.
Hein, mais tout ça, c'est ce qu'on a déjà beaucoup dit autour de cette table. C'est vachement dur à gérer. Personne ne sait ce qui va se passer. Et manifestement, pour l'Éducation nationale et son ministre, ça a l'air d'être aussi encore plus compliqué. Mais ben, je voulais faire une parenthèse sur un ministre quand même que moi, j'ai retenu, c'est le mammouth. Hein.
Ouais, dégraisser le mammouth.
Ouais, comment il s'appelait ?
Allègre.
Allègre.
Ah
oui, quand même.
Claude.
Quand même.
Un autre problème qu'on rencontre aussi, pourquoi les éboueurs, après l'Éducation nationale, nous font-ils aussi autant chier à longueur d'année?
C'est
un vrai problème.
Parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance.
Ah oui, et puis ils ont succédé.
Les chauffeurs de car Rhésalpes, ils se foutent en grève. Ils se foutent en grève.
Bah voilà, oui.
Ils vont tourner en rond, là, sur la place de l'Europe. C'est tout.
Ils vont pas nous emmerder plus que ça, c'est ça que tu es en train de nous dire.
Le vrai truc grave, ce serait qu'ils mettent la tête de Nico sur un pic, mais sinon, en dehors de ça, personne ne va s'intéresser au problème des chauffeurs de car Rhésalpes, tandis que tu as vu à Toulouse.
Bah voilà, donc.
Ils font du Marseillais à Toulouse.
Alors, oui, exactement.
C'est bien, c'est vite fait.
C'est vite fait.
On est confronté effectivement à peu près à la même chose. À Marseille, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive, j'allais dire, régulièrement. Maintenant, c'est à Toulouse. Alors, on va faire simple. Hein. À l'origine de ce mouvement, c'est la colère des agents. Alors, il y a eu la fin de ce qu'ils appellent le fini parti.
Oui.
Est-ce que c'est le fini parti? Fini parti, c'était un avantage qui était accordé aux éboueurs, à l'époque à Toulouse, hein, selon Baudis. Hein. Donc ça remonte à quelques années. Pour que les rues de Toulouse soient propres avant 9h du matin et que les camions poubelles ne gênent pas la circulation dans les rues à l'heure des livraisons, les agents donc, ont accepter cette disparition, mais pas le nombre de jours de récupération donc accordé en compensation. Là, je pense que Nico, ça va te faire bondir. Alors, ils sont passés, effectivement, à partir du 1er janvier, à 35 heures, en sachant qu'avant, ils étaient à 25 heures la semaine. Ils commençaient à 5 heures, ils terminaient souvent vers 10h, 10h15, hein, grosso modo, cette semaine de congé. Donc, pour compenser ce travail sub de 2 heures par jour, ils demandent 34 jours de compensation par an.
Seulement 34
ah bon. Nico ?
Non, ça fait beaucoup quand même.
Nico, il était en train de faire son calcul. Bouge pas, je fais mon calcul. Alors, 34 jours.
C'est des jours ouvrables puisqu'il travaille tous les jours.
Oui, oui, oui.
Donc ça fait un mois et demi. Quoi.
Ouais. Je pensais pas avoir bien compris. Mais effectivement, c'est quand même. Il faut qu'il y ait une équité entre les professions. Même si on peut reconnaître qu'on leur doit.
La pénibilité du travail, on est d'accord. On est d'accord.
Ramasse nos déchets. Hein,
on est d'accord.
Mais quand même, il faut qu'il y ait une équité entre les différentes professions. Et la pénibilité, elle y est là, mais elle est ailleurs aussi, où ils n'ont pas du tout des conditions de ce type-là.
Ouais. Ben, exactement.
Et puis, le fini parti, il est dangereux. Hein, parce qu'à un instant T, tu dis fini parti. Mais tu vois bien, on le voit bien dans le Briançonnais, les technologies de ramassage, de stockage
tout évolue. Bien sûr.
Donc le fini parti qui du temps peut-être à
de
l'époque
Baudis.
Faisait 32 heures, il est passé à 25. Fini parti, c'est payé à la tâche, c'est plus payé à l'heure.
Ouais, ouais.
Le fini parti, c'est le système de paiement à la tâche. Tu ramasses cette rue, tu as tant d'argent. Ce serait logique avec le fini parti.
Le problème, c'est que dès l'instant où tu as octroyé ces avantages,
oui.
Après, pour les retirer, ça devient très compliqué. Quoi. Très compliqué. Donc là, ils proposent 9 jours. 9 jours de compensation au lieu des 34. Et ils ne sont pas d'accord.
Enfin, ils ont exporté un peu les problèmes du port de Marseille. Vous vous souvenez, l'Estac et compagnie. Bon, il n'y a plus de port à Marseille. Hein, on est tout à fait d'accord. tout le monde l'a senti, mais bon, quand on avait de la famille à Marseille, on savait que pour être docker, il fallait que son papa, son grand-père et tout. Moralité, elle a pu, c'est terminé, a pu. Bon, ben maintenant, c'est le ramassage des ordures. Mais il y a une autre ville comme ça, c'est Naples, qui a lancé ce genre de truc. Et ils tiennent la ville de Naples. Bon, bah après, ils trouveront autre chose. C'est pas grave.